Vous écoutez On lit pour vous.
Favoriser son inclusion au travail comme personne malentendante. Un texte de Liette Robin, paru le 3 juillet 2025 dans Sourdine Express. À titre de personne malentendante, j'ai été victime de discrimination à quelques reprises, entre autres lorsque je travaillais pour un ministère public. Alors que la direction a préféré rester neutre et me laisser négocier moi-même avec mes collègues, j'ai été consterné et découragé lorsque ces derniers m'ont clairement refusé un accommodement que je considérais pourtant très simple. Interchanger des locaux de classe pour s'éloigner du bruit ambiant. L'une d'entre elles m'a même répondu « Pourquoi je t'accommoderais si je n'y suis pas obligé ?» Au fil du temps, j'ai régulièrement entendu des personnes malentendantes parler de leurs difficultés vécues sur le marché du travail à cause de leur handicap. Plusieurs y ont vécu de la discrimination et certaines ont même dû quitter leur emploi suite à ces difficultés. J'ai répondu au sondage et on ne m'a tout simplement pas cru et offert une rétrogradation de poste plutôt qu'un environnement de travail moins bruyant. Nous vous avons consulté. En prévision de la rédaction de cet article, Audition Québec a demandé à ses membres ayant eu une expérience dans le milieu du travail de participer à un sondage en ligne sur l'inclusion en emploi des personnes malentendantes. 35 personnes ont répondu. Nous avons utilisé vos réponses tout au long de ce texte. Merci. Pourquoi demander des mesures facilitant notre intégration en emploi? Vivre avec une perte auditive amène son lot de défis, particulièrement au niveau professionnel. Il est parfois difficile de faire comprendre et accepter à notre entourage, parfois des inconnus, que nous avons certaines limitations. Par exemple, il peut nous être impossible de prendre des appels, de travailler dans certains environnements, ou encore la période d'apprentissage et/ou d'intégration en emploi peut être plus longue. Tout ceci demande souplesse et adaptation de la part de l'employeur et de l'employé. N'est-il pas normal d'espérer travailler dans un milieu où les gens font des efforts pour faciliter notre inclusion et notre maintien en emploi tout en occupant un poste correspondant à nos compétences et intérêts? Comment faciliter notre inclusion dans un milieu de travail? Souvent, on pense que l'intégration d'une personne malentendante se traduit uniquement par l'utilisation d'aides techniques. Il y a bien plus. En effet, plusieurs moyens peuvent être mis en place pour favoriser l'inclusion et la participation active de la personne malentendante dans son milieu de travail. La réussite du projet d'inclusion dépend toutefois d'un élément fondamental. La qualité de la communication entre les différents parties, c'est-à-dire l'employeur, l'employé et les collègues. J'ai répondu au sondage. Poser des questions sur les besoins des personnes afin de trouver des solutions. Elles sont souvent beaucoup plus simples que vous ne le pensez. La plupart des adaptations ne coûtent rien, mais demandent un effort d'adaptation. Sensibilisation et ouverture du milieu de travail. Sensibiliser l'entourage à l'importance d'offrir un milieu de travail inclusif permettant d'y mettre à profit vos aptitudes, compétences et expériences. Encourager un climat de respect, respect du tour de parole, s'assurer de vous inclure dans les conversations, etc. Expliquer vos limites et besoins, incluant le principe de la fatigue et de la surcharge cognitive. Présentez les stratégies de communication gagnantes, autant pour vous que pour l'entourage. Si pertinent, il peut aussi y avoir une formation à la langue des signes. Recevoir un accompagnement ou parrainage personnalisé vous rassurera et facilitera votre intégration dans l'entreprise. Aménagement physique du lieu de travail. Si possible, vous devriez bénéficier d'un espace de travail adapté. Par exemple, il pourrait offrir environnement insonorisé et ou acoustique, limitant la réflexion du son. Limiter le bruit dans l'espace de travail, exemple, machinerie, photocopieur, collègues qui parlent à proximité. aménager les lieux afin de favoriser la communication. Exemple, la disposition des chaises lors des réunions, des postes de travail. Un éclairage adéquat afin de faciliter les échanges visuels, la lecture labiale ainsi que la lecture des écrits. Exemple, lors des présentations. Adaptation des méthodes de communication. Présenter par écrit les consignes, informations et les messages. Fournir par écrit, à l'avance, les plans de rencontres, de réunions ou de conférences. Assurer la prise de notes pendant les réunions et conférences. Instaurer un tour de parole lors des rencontres de groupe. Sous-titrer les réunions et les formations afin que la personne puisse suivre les échanges de manière visuelle. Outils technologiques. Offrir différentes aides techniques permettant de compenser le handicap. Téléphone adapté, micro de type Roger Penn, alerte visuelle pour le téléphone, la sonnerie de porte ou le système d'alarme, logiciel de reconnaissance vocale ou transcription automatique. Utiliser des outils de transcription en temps réel permettant de retranscrire ce qui est dit lors de réunions ou conversations téléphoniques. Favoriser les rencontres en vidéoconférence plutôt que celles en personne ou que les appels téléphoniques. Permettre le télétravail. Votre expérience en matière d'accueil et d'intégration. Parmi les personnes ayant répondu à notre sondage, 82,9% ont indiqué avoir déjà occupé un emploi en tant que personne malentendante. En conclusion, ce sondage maison démontre qu'il reste beaucoup de chemin à faire afin de faciliter et d'optimiser l'inclusion des employés en entreprise. Parmi les différentes mesures pouvant être mises en place, il semble y avoir consensus autour de la nécessité de 1. Sensibiliser le milieu à la perte auditive, ses conséquences et ses limitations. Cette sensibilisation favorise l'ouverture d'esprit des gens face aux besoins des personnes malentendantes. 2. Former les gestionnaires et les soutenir afin de les aider à mettre en place les adaptations nécessaires à l'inclusion. Je laisse le mot de la fin à l'un de nos répondants qui illustre bien qu'il faut oser et que nous pouvons avoir de belles surprises. J'aurais dû aviser de ma surdité dès le départ. Mes collègues sont tous très bienveillants et s'assurent que je sois bien placé dans les salles de réunion ou lors des événements d'équipe. C'était « Favoriser son inclusion au travail comme personne malentendante », un texte de Liette Robin, paru le 3 juillet 2025 dans Sourdine Express.
Coupe en éducation. La coalition s'agrandit. La pétition approche les 150 000 signatures. Un texte de la presse canadienne paru le 7 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. La grogne contre les restrictions budgétaires en éducation ne s'essouffle pas, alors que la coalition s'agrandit et que la pétition sur le site de l'Assemblée nationale approche les 150 000 signatures. De nouveaux groupes viennent de se joindre à la coalition, a annoncé récemment la Centrale des syndicats du Québec, CSQ. Il en est ainsi de l'Association des commissions scolaires anglophones, de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, de la Fédération québécoise de l'autisme et de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, entre autres. Des employeurs se retrouvent donc dans la même coalition que des syndicats qui représentent des enseignants, du personnel de soutien scolaire et des professionnels de l'éducation, en plus de parents d'enfants. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui ne s'est jamais fait. Regrouper tout ce monde-là et d'envoyer un message. On ne peut pas tolérer les coupes en éducation, a lancé le président de la CSQ, Éric Gingras, en entrevue récemment. Même si le ministre de l'Éducation a demandé de toucher le moins possible au service direct aux élèves, les acteurs du milieu estiment que cela sera impossible, vu l'ampleur de la commande de Québec. Les premiers touchés sont ceux qui n'ont pas cette espèce de plancher d'emploi-là. Et ça, ce sont, par exemple, les techniciens en éducation spécialisée. On va retirer des heures, que ce soit nos collègues psychoéducateurs, que ce soit nos collègues psychologues. Ce sont eux les premiers touchés, parce qu'on vient couper des heures, a résumé M. Gingras. Et après ça, c'est tout le monde qui est touché. On touche au service de ceux qui en ont le plus besoin. Puis après ça, ce sont les autres, parce qu'ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie, ils perdent de la capacité d'intervention, parce qu'il y a plus d'élèves auprès desquels il faut intervenir, ajoute-t-il. À la fin, tout le monde est touché, dit Éric Gingras. À la fin de l'année scolaire, Québec a annoncé que le réseau devra réduire ses dépenses de l'ordre de 570 millions de dollars. Québec nie qu'il s'agit de véritables coupes, disant simplement ralentir le rythme de croissance du budget en éducation, qui augmentera de 5 % au lieu de 7 % lors des années précédentes. Par ailleurs, la pétition qui demande de ne pas procéder à des restrictions budgétaires en éducation, mise sur le site de l'Assemblée nationale le 23 juin, avait recueilli 149 000 signatures récemment. Les intéressés ont jusqu'au 15 septembre pour la signer. Elle est parrainée par le député péquiste Pascal Bérubé, porte-parole de son parti pour les dossiers d'éducation et lui-même enseignant de formation. C'était « Coupe en éducation ». La coalition s'agrandit. La pétition approche les 150 000 signatures. Un texte de la presse canadienne paru le 7 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
Des choix éclairés à la lampe torche en éducation. Un texte de Mélanie Tremblay, Stéphane Allaire, Mylène Leroux, Nancy Goyette et Mélanie Paré, paru le 11 juillet 2025 dans Le Devoir. Alors qu'on remercie le personnel scolaire pour son travail et qu'on salue la fin de l'année scolaire, le Québec fait face à une épreuve sans précédent, des compressions budgétaires draconiennes en éducation. De façon ironique, la nomination de Lucien Junior Maltais à la tête de l'Institut national d'excellence en éducation, INEE, conforte la dotation d'une nouvelle instance, laquelle contribue à la dilapidation de fonds publics et d'organisations importantes du réseau scolaire. Dans ce contexte troublé et pour le moins troublant, nous proposons une lecture de la situation à partir des travaux de Fullen, 2012, un professeur émérite de l'Ontario Institute for Studies in Education à l'Université de Toronto, un Canadien et un expert reconnu internationalement en leadership éducatif. Ces travaux sont prisés pour l'approche collaborative, éthique et systémique du changement, centrée sur la réussite de tous les élèves. Une réussite qui ne se réduit pas à des résultats chiffrés ponctuels, mais qui est éclairée par des données qui permettent de documenter l'amélioration continue de l'apprentissage, l'engagement et le bien-être de chaque élève dans un système qui apprend collectivement. Des données et des compressions qui ont des visages. Fullen insiste sur le fait que les données ne sont pas abstraites ni indépendantes des réalités. Elles représentent des élèves réels, des visages, des histoires, des besoins. Dans cette perspective, les compressions budgétaires ne doivent pas être évaluées qu'en termes financiers, mais par rapport à l'impact sur les élèves. Quels élèves perdront leur accès à un accompagnement spécialisé ou au parascolaire faute de moyens? Quelles entraves s'ajouteront à la capacité des écoles publiques de soutenir ceux qui sont les plus vulnérables? Ces questions devrait éclairer les choix du nouveau PDG de l'INEE, en particulier celle-ci. Quelles décisions permettent véritablement de soutenir l'apprentissage et l'épanouissement de tous les élèves? Une INEE au service des différents visages. Follen parle d'un leadership qui met les voies apprenantes, du préscolaire à l'université, en passant par la formation professionnelle et l'éducation aux adultes, au centre des décisions. Et ce, même si les statistiques n'entrent pas dans les taux annuels de réussite scolaire. Il insiste sur l'importance d'un leadership qui engage l'ensemble des personnes concernées autour de cette mission. Le nouveau PDG de l'INEE saura-t-il réellement mettre les apprenantes et apprenants au centre de l'action éducative, en mobilisant les milieux qui les connaissent par leur prénom, y compris celui qui lui verse son salaire, le gouvernement? Sera-t-il en mesure d'incarner un leadership éthique, refusant de réduire les décisions à une logique politique ou d'efficacité, et valorisant plutôt leur impact sur les trajectoires éducatives, aussi diverses soient-elles? Rien n'est moins sûr, alors que ce leadership, loin d'être partagé, se concentre désormais entre les mains du ministre et du PDG, à rebours des principes de co-construction promus par Follen. Il nous semble que le rôle d'un top gun en éducation consiste à s'appuyer sur une diversité de résultats de recherche, en tirant parti de l'expertise complémentaire de son entourage pour en saisir toute la portée. Il encouragera la mobilisation de données locales descriptives afin de documenter notamment les effets des compressions et de soutenir des décisions adaptées aux réalités du terrain sans sacrifier le droit de toutes et tous à une éducation de qualité. Des compressions qui exigent une responsabilité partagée. Les travaux de Follen évoquent que l'amélioration passe par des dispositifs collaboratifs authentiques plutôt qu'imposés, et surtout pas par la compétition entre écoles ni par une gouvernance top-down. Or, les récentes réductions budgétaires sont déconnectées des réalités du terrain. Le moment où elles sont annoncées témoigne d'un profond manque de respect envers celles et ceux qui font vivre l'école au quotidien. Par exemple, alors que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, CAQ, avait lui-même encouragé que les journées d'affectation des contrats soient devancées pour faciliter la recherche de ressources humaines, il sabre les budgets servant à les recruter à quelques heures des vacances. Quelle marque de reconnaissance envers ceux et celles qui soutiennent à bout de bras l'éducation! L'éducation, notre priorité, disait-il. La posture proposée par Follen est tout autre. Elle exige que les décisions soient prises avec les milieux, enseignants, direction, parents, élèves. Si le feu Conseil supérieur de l'éducation réussissait à faire entendre une diversité de voix, Follen proposerait pour l'INEE un rôle de courroie entre les données, les savoirs professionnels et scientifiques, ainsi que les contraintes des décideurs, à condition cependant de rejeter une approche scientiste et technocratique des indicateurs de performance. Oser se doter de données pour alimenter ce que l'on perd. Avec l'adoption de la loi 23, le gouvernement a scellé un désir d'investir, même sans fonds, dans la collecte de données pour alimenter la prise de décision. Mais encore faut-il savoir à quelles données nous nous référons et comment elles seront utilisées en prenant soin de définir les finalités éducatives. La mise à plat de tels éléments est fondamentale. À défaut, ils seront nécessairement déduits des actions mises en place. L'un des dangers que Follin dénonce est l'usage des données pour sanctionner, classer ou justifier des décisions idéologiques. Il appelle plutôt à une utilisation des données pour améliorer les pratiques dans un esprit d'apprentissage organisationnel. Les compressions budgétaires ont été motivées par la nécessité de sabrer les dépenses globales du gouvernement. Mais cette lecture comptable a négligé le fait qu'on possédait déjà des données et une capacité à apprendre du passé pour éclairer l'avenir. A-t-on évalué si l'on coupait là où prenaient forme des innovations prometteuses, au cœur même de notre culture et de notre jeunesse? Démobilise-t-on les acteurs et actrices du réseau? Réduit-on la capacité du système scolaire à soutenir ses élèves et son personnel? Follin le rappelle, toute réforme éducative doit être portée par une visée morale, celle de la réussite de tous les élèves, particulièrement les plus désavantagés à l'école. Cela exige une éthique de justice éducative. Qui protège-t-on? Qui sacrifie-t-on? Et pourquoi? En s'écartant d'une logique de reddition de comptes descendante, l'INEE pourrait devenir un catalyseur de réflexion partagée et de développement professionnel ancré dans les réalités du terrain. Par exemple, en produisant des analyses compréhensibles, dialoguées et utiles pour soutenir la régénération du système éducatif en misant sur l'intelligence collective. Un défi ambitieux, voire irréalisable, quand on fragilise ou abolit les organisations de transfert comme le CTREQ ou les RECIT, qui ont le pouvoir de soutenir, de relier et de faire entendre les voix du réseau. Adopter la posture de Follin face à la situation actuelle au Québec, c'est de refuser les lectures comptables pour adopter une vision humaniste, collective et engagée du système éducatif. Cela suppose que le nouveau PDG de l'INEE joue un rôle d'interface entre les savoirs du terrain, les résultats éclairés par une variété de recherches en éducation et les décisions politiques, tout en mettant au centre une question simple, voire simpliste, que notre gouvernement actuel semble avoir complètement oubliée. Qu'advient-il des visages derrière les données? C'était « Des choix éclairés à la lampe torche en éducation », un texte de Mélanie Tremblay, Stéphane Allaire, Mylène Leroux, Nancy Goyette et Mélanie Paré, paru le 11 juillet 2025 dans Le Devoir.
Vacances et promenades à vélo plus sécuritaires en vue. Un texte de la rédaction, paru le 3 juillet 2025 dans Sourdine Express. Après un printemps pluvieux et frisquet, l'été est finalement venu ensoleiller nos cours et réchauffer nos piscines, et pas à peu près. L'arrivée de cette période estivale est également synonyme de vacances, et Sourdine Express n'y échappe pas. Votre magazine numérique favori sur la santé auditive profitera donc d'une petite pause pour vous revenir en septembre avec du nouveau contenu riche et original. Mais avant d'en arriver là, parlons de ce qui se prépare chez Audition Québec cet été. L'arrivée tant attendue de nos plaques à vélo. L'heure est enfin venue de vous procurer l'une de nos très primées plaques à vélo de l'oreille barrée pour vos balades de cet été. Après une entrevue à l'émission radio Les Capés pour parler davantage du projet, nous avons eu l'occasion, le 1er juin dernier, de participer au Tour de l'île de Montréal, organisé par Vélo Québec, où nous avons pu présenter en primeur nos nouvelles plaques, en plus de faire de la sensibilisation auprès des cyclistes sur les bonnes pratiques à adopter lorsqu'ils croisent un vélo doté d'une plaque de l'oreille barrée sur les pistes cyclables. Mais ce n'est que le coup d'envoi à un été très chargé en événements auxquels nous prendrons part pour parler de notre plaque et sensibiliser les cyclistes. Pour couronner le tout, une page web complète a également été développée afin d'offrir des outils de sécurité et d'inclusion tant aux cyclistes malentendants et sourds qu'aux autres usagers de la route et des pistes cyclables. Vous pouvez trouver cette mine d'informations dans la section « Outils et conseils » de notre site web. Et si vous souhaitez obtenir votre plaque, qui inclut le système de fixation au vélo, les instructions et un dépliant d'informations complémentaires, vous pouvez vous la procurer dès maintenant sur notre boutique en ligne. N'oubliez pas que, si vous êtes membre d'Audition Québec, vous avez droit à un rabais de 20% sur votre commande. Une édition chargée pour clore la saison. Alors que cette saison 2024-2025 de Sourdine Express tire à sa fin, nos collaborateurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour vous rédiger des articles plus qu'intéressants et vous préparer des entrevues éclairantes. Que ce soit dans notre rubrique « Témoignages », avec un article sur l'inclusion des personnes malentendantes au travail, pour lequel vous avez été nombreux à collaborer via notre sondage, dans notre rubrique « Des nouvelles bien de chez nous », avec notre retour sur les panels d'experts en lien avec les risques du choc et du trauma acoustique sur la santé auditive, présenté lors de la Journée nationale de l'audition du Québec, la présentation de la nouvelle liste des aides auditives couvertes par la RAMQ ou encore à travers toute la panoplie d'articles dont regorge cette édition, vous trouverez de quoi vous instruire, vous divertir et vous occuper. L'équipe d'Audition Québec tient à remercier tous ses précieux collaborateurs qui ont contribué à enrichir les éditions de la saison 2024-2025, le comité de rédaction qui se dévoue à Sourdine Express, les nombreux annonceurs et surtout les fidèles lecteurs qui, édition après édition, consultent notre contenu avec intérêt et nous partagent leurs commentaires, leurs questions et leurs bons mots via le courrier des lecteurs. Toute l'équipe vous souhaite un bel été et a très hâte de vous retrouver en septembre. C'était « Vacances et promenades à vélo plus sécuritaires en vue », un texte de la rédaction paru le 3 juillet 2025 dans Sourdine Express.